Et donc elle arrive, et ça a été un déjeuner extraordinairement raté, merveilleusement raté, parce qu'on ne savait pas très bien quoi se dire, elle est assez timide, elle n'avait pas très envie de parler, etc. Et surtout, désastre. On arrive à la fin de ce déjeuner, et un type arrive pour la prendre. Je n'avais pas encore posé mes premières banderies, rien. J'ai compris, là, un type beaucoup plus âgé que moi. Là, j'ai compris que je ne pourrais pas aller vers ces nouvelles jeunes filles. Il fallait que j'attaque d'un autre côté.
Mais quelle était votre idée ?
Mon idée, c'était que, d'abord, j'avais entendu qu'elle avait sa voix. Je trouvais que c'était très original, c'est Bonjour Tristesse, hein, et que c'était très original, très cultivé en dessous. Ce que la suite a prouvé, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup lu. Le livre que je préfère d'elle, c'est Avec mon meilleur souvenir, qui est un livre de portrait absolument formidable. C'est une sorte de chef-d'œuvre, Billy Holiday, le portrait de Sartre, etc. C'est formidable. Et donc, je voulais simplement tester si j'avais des interlocuteurs pratiquement du même âge ou des interlocutrices, voir ce qu'on pouvait faire ensemble pour faire bouger les choses éventuellement. Alors, évidemment, j'ai suivi un parcours tout à fait différent, moi-même extraordinairement différent dans la façon de vivre. Etc. Mais j'ai toujours suivi avec beaucoup, beaucoup d'intérêt sa légende, ses histoires. Ces histoires de voitures, ces histoires de dépenses, ces amitiés, etc. Et je pense que c'est une légende. Voilà.
Est-ce qu'elle aurait eu une telle notoriété si sa vie n'était pas répandue dans les journaux ? C'est aussi une vedette de la presse.
Bien sûr. N'oubliez pas que celui qui faisait beaucoup pour la notoriété à ce moment-là, ce n'était autre que François Mauriac, qui a célébré ce charmant petit monstre, comme il l'a appelé, je crois, et puis moi, lors de grands articles aussi, c'était dans l'Express. Etc. Donc il y avait, à ce moment-là, donc nous sommes fin des années 50, là, voilà. Il y a à ce moment-là, dans le pays, avec des choses historiquement dures, hein, comme la guerre d'Algérie qui va arriver vite, hein, ça, on n'a pas connu ça, mais enfin, moi, toute ma génération était embarquée là-dedans, il y avait un désir de renouvellement assez grand. C'est-à-dire qu'il fallait trouver des jeunes talents. Donc c'est pour ça que les vieux installés, enfin les vieux maîtres qui tenaient un peu le haut du pavé de l'opinion à ce moment-là, Mauriac, Aragon, enfin, etc., cherchaient un petit peu comme ça. Voilà. Donc ça a été très important. Et ensuite, évidemment, alors... La côte Saint-Tropez, les voitures, patati, patata. Pourquoi ? Parce qu'elle incarnait la jeune fille française, comme on ne l'avait pas vue, peut-être un tout petit peu entreaperçue dans les années folles 20, mais même pas. Donc, immédiatement, elle est devenue un symbole de la bourgeoisie émancipée, et qui en même temps, très habilement, a des convictions plutôt à gauche.
Est-ce que c'est sciemment qu'elle s'est nourrie de ce genre de choses pour sa littérature, ou c'était pas du tout calculé? Elle a vécu comme elle avait envie de vivre, et elle aurait pu écrire ou ne pas écrire.
Je crois qu'elle a vécu comme elle avait envie de vivre et de se détruire aussi, comme elle avait envie de le faire. Je pense que c'est quelqu'un qui restait très en deçà, probablement, de ses possibilités d'écrivain. Pourquoi ? Parce que l'argent, parce que des choses plus ou moins bâclées, je sais pas, le théâtre une fois sur deux, un roman pas mal sur trois, etc. Alors je pense là aussi il y a un problème très important, c'est que il aurait valu évidemment qu'elle travaille quoi, tout le temps. Hein, alors entre travailler, s'amuser, évidemment il faut une force particulière. Là ça se pose à partir de ce moment-là, et ça va se poser de plus en plus pour les écrivains, les jeunes écrivains français. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont vraiment assis à penser vraiment la chose? Ou bien est-ce qu'il faut combiner plus vite, plus tôt, ils boivent plus jeunes, ils ont besoin d'argent plus jeune, ils lisent pas forcément comme il faut lire tout. Mais Sagan connaissait beaucoup de choses. Elle connaissait Proust, elle savait très bien, très très bien de quoi il s'agissait.
Alors, bien que bourgeoise, elle a quand même fortement choqué la bourgeoisie.
C'est les bourgeois qui choquent la bourgeoisie. Ça se passe toujours comme ça. C'est vraiment. Marx était un bourgeois, vous savez.
La communiste n'est pas bourgeoise.
Non, mais elle ne choque pas beaucoup. Je veux dire, c'est forcément le bourgeois qui invente des trucs qui déplaisent forcément à sa classe, à son milieu. Moi, je suis un traître à ma classe moi-même. La bourgeoisie de Bordeaux n'a pas vraiment apprécié mes élucubrations et mes zigzags.
Est-ce que dans sa vie, elle il n'y a pas eu trop d'événements qui ont un peu désorienté le lecteur. Et puis, par exemple, le fait de consommer de l'alcool, d'avoir été impliqué dans des affaires de drogue.
Oui, bien sûr.
Il y a eu beaucoup de choses qui ont pu irriter le public, je ne sais pas.
Moi, je crois que ça glisse sur elle comme sur un canard. Finalement, je crois qu'elle l'a et elle aura. On le verra, parce qu'elle va rester comme une légende. Un capital de sympathie, irrité, agacé, mais un capital de sympathie très, 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 très profond. Parce que, tout simplement, c'est quelqu'un de raffiné, de subtil, et le choc entre la subtilité et le raffinement, le goût, le fait de jamais dire une bêtise, on a parlé souvent, c'est revu après, jamais une bêtise, c'est extraordinaire chez un être humain. Je n'oserais pas dire chez une femme, c'est encore plus extraordinaire. Non, je ne l'ai pas dit. Eh bien, jamais une sottise. Toujours le goût. Alors, évidemment, dans cette bouillie, on entend plus ou moins ce qu'elle raconte, mais jamais, jamais une sottise. Je crois que, bien entendu, c'est pas un écrivain populiste remarquable. Enfin, je voyais qu'on l'a comparé à George Sand, etc., récemment, parce qu'on essaye de faire mousser comme ça les grandes femmes écrivains. Bon. Mais elle va rester beaucoup plus profondément qu'on ne croit, d'après moi.
Ces mariages.
Oui.
Un peu ubuesque, quand même.
Je ne crois pas que ça a été son principal souci. C'est visible dès le début, c'est ce détachement, justement. Les hommes, oui, bon. La sexualité, ouais, vous croyez vraiment que... Donc c'est très à contre-courant, cette position, enfin à contre-courant, non pas des personnes, mais des médias aujourd'hui. Non, je sais pas. Qu'est-ce qui l'intéresse vraiment? Je sais pas, probablement être... Elle se sent pas très bien dans son corps, c'était des subterfuges comme ça, enfin des choses pour être bien, pour se sentir bien, d'où l'alcool, la vitesse, etc. Non, c'est... Les hommes, je m'avance beaucoup, mais enfin, c'est le proverbe chinois, un homme ne laisse pas plus de traces dans une femme qu'un oiseau dans le ciel.
Et par rapport aux éditeurs, elle devait un peu les troubler, parce qu'à la fin de sa carrière, elle a eu plusieurs éditeurs.
Mais c'est l'histoire d'argent, tout ça, c'est effrayant.
Et Gallimard...
Gallimard a publié Avec mon meilleur souvenir, et Gallimard est chanceux, parce que c'est un de ses meilleurs livres. Bon, sinon,
ce n'est pas un roman.
Non, ce n'est pas un roman, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il faut le lire.
On l'a demandé, on a dit c'était épuisé.
Non, il doit être en livre de poche.
Il doit être... Oui, enfin,
il est sûrement en folio. Ah, ben, épuisé, tant mieux, mais il va être réimprimé, oui, sûrement. Non, c'est un livre épatant. Oui. Le portrait de Sartre, surtout, est très, très étonnant.
Oui. Il a été fasciné par Sartre.
Ah oui, mais Sartre était...
Il déjeunait une fois par semaine.
Oui, et puis elle l'avait vu, ils allaient dans la même maison de passe, ou l'hôtel de passe. C'est très amusant, c'est très, très amusant. Et Sartre était fascinant. Moi, j'ai passé 2 heures, 3 heures un jour avec lui. Oui. Ouais, il était presque aveugle, hein, donc il se mettait comme ça, genou contre genou. Et c'était en 72, enfin après 68. Et 2 heures à toute allure. Parlant de quoi? De Flaubert. Voilà. Puis alors, une fois, après ça, Citane, Maïs, l'une sur l'autre. J'ai dit, qu'est-ce qui vous prend ça pour que vous fassiez un contrat? Oui, aujourd'hui. Il me dit, mais parce que Castor n'est pas encore rentré, alors j'en profite. C'est Simone de Beauvoir qui aurait interdit de fumer. Voilà. Et puis alors, après, ils m'ont accompagné sur le palier. Il me dit, alors, on se retrouve dans la rue. Hein. c'était vraiment. Hein, Flaubert, pendant 2 heures et demie, on se retrouve dans la rue. Enfin, voilà. La fantaisie, vous comprenez? C'est-à-dire, le fait de ne jamais insister, c'est admirablement fait. Comme ça, on n'insiste pas.
Et on accepte beaucoup de choses. Est-ce qu'elle lisait ses contrats? On ne saura jamais si elle a commis sciemment ou inconsciemment
Elle s'en fout, je crois, un peu. C'est ça que j'aime bien. C'est la désinvolture, c'est une sorte d'élégance. Bon, après tout ça.
Elle adorait rire, faire rire, et elle aimait beaucoup Chazot, parce qu'elle disait, c'est l'homme le plus drôle que je connaisse.
Oui. Et Bernard Franck.
Oui, mais qui la faisait moins rire, peut-être.
Non, on rit bien avec Bernard Franck aussi.
c'est pas le même, en tous les cas.
Non, ça, mais... Le rire, oui, voilà. Le rire, la légèreté, la désinvolture, ça agace, évidemment, tout le monde. Enfin, l'esprit de sérieux pèse de plus en plus, vous ne trouvez pas, dans notre temps. On ne voit mal le Sagan voilé.
Et son théâtre, vous l'avez vu certaines
fois. Je m'en fous un peu, ça. Oui, ça je vais jamais au théâtre, ça. Oui, non. Non, je peut-être pour Beckett, oui. Ou, mais enfin, non.
Puis elle a eu des scénarios, des livres, sur des films. Et elle a même réalisé un film elle-même.
Oui.
Mais quand Edwige Lescaut a fait un film d'un de ses livres, elle a dit qu'elle est sortie au bout de 10 minutes.
Oui, oui, je crois. Non, ça c'était, oui, ça c'était pour le dehors, etc. Il y a des gens qui n'auraient jamais pu vivre sans le théâtre. Beckett n'aurait jamais pu vivre sans avoir fait du théâtre. On n'aurait même pas regardé ses manuscrits, vous savez. Donc ça, c'est social. Ce qui est intéressant dans Sagan, c'est tout ce qui est parasocial, asocial, tout en étant une vedette comme ça, photographiée partout. Non, ce qui me touche, c'est son côté sauvage, en fait, son côté clandestin, son côté... quand il faut la rapatrier d'urgence, voilà, elle était partie avec Mitterrand. C'est sa solitude. C'est drôle parce qu'un certain sourire premier livre, moi, une curieuse solitude. Alors, quand je vous ai raconté cette histoire de jeunesse, c'était une curieuse solitude qui allait voir un certain sourire. Et finalement, les deux titres étaient assez réciproques.
Ses options politiques, elle était sérieuse,
pas la gauche, oui, c'est la gauche, c'est la gauche.
Elle a
une
grande passion pour François Mitterrand.
La gauche divine, comme on l'a dit. Mais enfin, bon, c'est-à-dire Mitterrand, oui, c'est ça. Écoutez, j'aimais bien François Sagan. C'est une personne très remarquable, le manus. Oui. Écoutez, François Sagan, franchement, je n'aime pas. Bernadette a essayé d'en lire. Elle n'y a... Non. Donc, à gauche, oui. Oui, forcément.
C'est pas la même gauche que le nouvel observateur.
Si, en gros. Oui. Oui, Bernard Franck est à l'Obs, c'est un peu. Si, c'est très. C'est assez Obs, trans-Obs.
Alors, au fil des années, est-ce qu'elle n'a quand même pas perdu des lecteurs et pour quelle raison? Elle n'a pas eu le tirage à la fin de sa vie qu'au début de sa vie.
Bien sûr. Mais maintenant, les lecteurs sont-ils ceux qui achètent les livres? C'est pas sûr. Je crois qu'elle aura de toute façon des lecteurs parce que elle écrit bien. Sauf quand elle bâcle un peu, mais enfin, c'est bien, c'est toujours musicalement juste. Et ça devient de plus en plus rare, hein, vous savez, je reçois beaucoup de manuscrits. Au bout de deux pages, on sait que c'est pas la peine.
Au fil des années, est-ce que son électorat n'a pas varié? Au début, elle avait des gens qui aimaient les livres, après, elle a eu peut-être des gens qui aimaient...
La vedette, oui. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est classique. Bon, écoutez, un écrivain est sauvé quand il a écrit, trois, quatre livres. Alors, d'autres en ont fait énormément. Sinon...
Elle en a fait une vingtaine, quand même.
Oui, et ben, sur la vingtaine, s'il en reste trois ou quatre, vraiment, ben, c'est gagné.
Est-ce qu'un écrivain doit jouer le jeu et mélanger sa vie professionnelle, littéraire, avec sa vie médiatique?
Alors, ça, c'est un grand problème. Parce que vous avez eu pendant longtemps l'idée que l'écrivain était une sorte de prêtre laïque qui devait vivre dans l'obscurité, la solitude, et que sa profondeur n'avait d'égal que son retrait de la société. C'est pour cela que, encore aujourd'hui, des pèlerins vont saluer Julien Gracq à Saint-Florent le Vieil et s'inclinent devant quelqu'un qui n'est jamais venu à la télévision, ni n'a jamais parlé à la radio. Et alors vous avez, c'est l'hommage qu'en rend le vice à la vertu, donc c'était comme c'était une question religieuse un peu. Vous connaissez mon point de vue, c'est-à-dire qu'il faut tout faire aujourd'hui, hein. Il faut écrire le livre, hein, très tôt le matin, tout seul. Après, il faut l'imprimer. Après, il faut faire les paquets. Après, il faut aller le porter. Il faut faire le ménage. Il faut presque écrire les articles pour et contre. Il faut aller à la télévision, à la radio. Et puis revenir chez soi, recommencer à 6h du matin, etc. C'est infernal. Mais c'est excitant aussi.
Jouer plusieurs personnages.
Alors, voilà. Moi, je détesterais avoir une image... fixe et qu'on vienne me voir comme on irait voir quelqu'un. C'est pour ça que je passe pour superficiel, mais ça m'arrange.
Oui, ça...
Pendant ce temps-là, comme on dit dans les films muets, il se passe des choses.
Mais dans l'imitation, vous êtes pas mal.
Hein, je trouve.
Oui,
eh bien, Halimi, je vous remercie.
Donc, encore, on peut être satisfait d'une chose, c'est qu'elle a fait des livres importants et qu'elle laissera simplement quelque chose de son passage.
Sagan, événement considérable dans la vie féminine d'un pays qui sortait exténué d'une guerre et d'un régime pourri, Vichy, tout ça. Bon. Donc, vitalité, et tout à coup, quand même, c'est dans ces années-là que les femmes en France ont obtenu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'elles n'avaient pas avant, sans parler du droit de vote, l'avortement après, etc. Donc, je suis libre, je gagne mon argent, je vis comme je veux, je change de mari ou d'amant, j'ai un enfant, je continue. Bon, c'est rien que ça, c'est déjà considérable, mais considérable par rapport à l'époque antérieure. Deuxièmement, très bon écrivain, fine, élégante, raffinée, subtile, pas de bêtises. Trois, quatre livres qui voilà. Tout ça, c'est absolument, voilà, dictionnaire, encyclopédie. Ah, photo charmante.
Elle restera.
Oh, mais oui, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des jeunes écrivains aujourd'hui qui essayent de l'imiter, enfin, pour qui elle est un modèle et qui veulent jouer justement, eux, à être écrivains et en même temps avoir une vie agitée, disons.
Oui, c'est le problème de savoir où en sont les femmes aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un grand mouvement et est-ce que c'est encore ou bien c'est en régression? Est-ce que l'époque est favorable ou pas défavorable? Sagan apparaît au moment où la France... qu'on ait un développement considérable, il y a une sorte de... il n'y a pas de chômage, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que ça va vers 68, c'est une explosion. Hein, quand la situation économique est bonne, quand les structures d'autrefois sont vermoulues, et ben voilà, il y a une explosion. Dans une époque de régression, c'est-à-dire dans laquelle nous sommes, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des écrivains, bien sûr, mais c'est beaucoup plus difficile d'être un jeune écrivain aujourd'hui qu'à l'époque, parce qu'il faut davantage... Alors, il y en a, bien sûr, il y a des filles épatantes. Il y en a 4 ou 5, il y a Emmanuel Bernheim, Marie Loriot-Sec, Christine Angot, c'est pour ne citer que celles-là, hein, qui ont entre 30 et 40 ans. Mais c'est certainement plus difficile, plus difficile. Et pour les garçons, c'est pareil, parce que, et encore une fois, ils ont besoin plutôt d'argent, ils boivent plus jeunes, etc. Donc, et puis, l'heure n'est pas... À la destruction. Le problème pour un écrivain, c'est d'éviter la marginalité. Vous comprenez ? C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il se laisse marginaliser. C'est pour ça que je tiens ce discours un peu offensif, en se disant qu'il faut se servir du médiatique aussi. La marginalisation est terrible. Parce qu'aujourd'hui, il faut des résultats très tôt. Avant, on laissait les gens mûrir un peu, premier livre, deuxième livre, troisième livre. Tandis que là, si ça ne se vend pas tout de suite, paf. Donc, tout ça est compliqué. Il faut éviter de se faire marginaliser, c'est-à-dire détruire, ou pousser au suicide. Nous avons déjà beaucoup d'amis, soit morts encore un récemment, Frédéric Berthet, qui était un très très bon écrivain, ou Lamarche Manel qui se tire des coups de carabine. Voilà. Donc c'est compliqué. Il ne faut pas croire que l'écrivain, vit tranquillement. Ça n'a jamais été vrai d'ailleurs. Donc il faut voir ça dans notre époque.
Et il n'y a pas une sorte d'émulation dans la provocation chez les femmes écrivains?
Une
sorte d'émulation dans la provocation? C'est-à-dire, Sagan a choqué avec son premier livre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire pour ne pas choquer?
Le problème est simple. Ou bien, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bouquins, hein. Vous avez 660 à la rentrée littéraire, et vous en avez tous les jours. Moi, je passe mon temps à recevoir 5-6 bouquins par jour. Bon, alors je les ouvre. Encore une fois, je vous dis, c'est au bout de 3 lignes ou une page, on sait si ça en est, ou si ça n'en est pas. Si ça en est de quoi? De la littérature. Donc c'est à ce moment-là, c'est la phrase qui compte. Qu'elle soit pornographique, idyllique, sentimentale, rouge, jaune, exotique ou pas, peu importe. On peut décrire un papillon, on peut décrire une scène d'amour, ou 3 abeilles, ou 4 ou 5 remue-ménages sentimentaux. C'est pas grave, c'est la phrase. Donc, s'il n'y a pas la phrase, en effet, il n'y a rien, que ce soit pornographique ou pas pornographique, ou hard. Ou...
Non, mais vous qui appréciez la provocation, est-ce qu'aujourd'hui elle vous donne...
Moi, j'apprécie. Je dis que c'est le style qui est toujours une provocation, la vraie provocation. Parce que, comme l'a dit Flaubert dans une formule définitive, je crois à la haine inconsciente du style. Je crois que les gens haïssent le style. Donc c'est tout. Alors ça peut être sexuellement osé, ça peut être aussi très détaché. Ça revient au même. Oui, c'est ça le truc. Si c'est écrit, c'est provocateur. Le reste est faussement provocateur et organisé par le système.
Dont on se sert beaucoup. Hein? Dont on se sert beaucoup.
Voilà, beaucoup. Oui, le système sait se servir de la provocation pour... Regardez dans quoi on vit. C'est-à-dire, il y a beaucoup de provocations et en même temps, vous êtes dans un système qui vous prône sans arrêt la sécurité, la précarité, la fragilité. Rentrez chez vous, vous avez peur de tout, ne fumez plus. Baisez le moins possible, vivez vieux, attention. Vous ne prenez pas l'avion, vous allez sauter en l'air, ne bougez plus. Et en même temps, on peut vous passer publicité, film nu, patati, patata. Donc c'est un système, un double entrée. D'un côté, tout est permis, soi-disant. De l'autre, tout est interdit, rentrez chez vous et fermez-la.
Hein? Si elle était auteur chez Gallimard, qu'est-ce que vous lui diriez? Vous lui donneriez des conseils? Vous la laissez
qui? À Sagan?
À Sagan.
Non, on dirait boire un coup. On ne donne pas de conseils aux écrivains, vous savez.
Vous en donnez quand même.
Bon, par la façon de vivre, c'est tout, la façon de... Jamais, non. C'est feu. Vous peignez comme ça. C'est Rocard, un jour, qui me dit « Vous écrivez vous-même vos livres ?» Là, je me suis dit mais bien sûr, mon cher monsieur. Mais vous n'acceptez jamais de conseils. Mais non, je dis, j'ai un marchand. Enfin, c'est comme de la peinture. Je fais les arbres rouges, etc. Il expose. Ouais. Oh, il me dit, ça manque pas de souffle.
Et quand on veut la notoriété, il faut accepter de prendre des coups. Sagan disait aux jeunes écrivains, elle les mettait en garde, vous allez voir, on va dire que c'est pas vrai.
Ah, mais attendez, vous voulez mon dossier je suis.
C'est ça.
Oui, mais bien sûr,
on va en parler. On va vous inventer une vie, des aventures, des histoires.
Ça fait vrai. Mais toutes les semaines, cher ami. Toutes les semaines, le magazine Marianne me trouve un pouls dans la tête.
Oui, mais là, vous dirigez les opérations. Quand on les dirige pas...
Un peu.
Ah, oui,
il faut que les ennemis travaillent.
En tout cas, c'est quand même une extraordinaire carrière de faire autant de livres, dont certains vous paraissent importants.
Ouais. Oui.
Mais peut-être que vous pourriez avoir le regret qu'il n'ait pas eu un éditeur qui l'ait suivi de bout en bout.
Peut-être, on peut dire ça, mais elle-même, non, encore une fois, c'est un peu sa faute, parce qu'elle ne s'est pas engagée dans la notion d'œuvre, en fait. Voilà, c'est ça. Elle a fait de très bons livres, d'autres moins bons, et puis, encore une fois, elle a toujours été pressée par l'argent, d'ailleurs, qui ne l'est pas aujourd'hui. Il faut aussi considérer cette chose qui est là, de plus en plus, pressante. On évalue un livre à l'argent qu'il va rapporter et non pas à sa qualité propre.
Elle avait beaucoup d'estime pour la maison Gallimard. Comment ça se fait que les éditions Gallimard n'aient pas fait d'efforts au moment où elle devait quitter...
Il faut leur demander, moi je crois.
Julliard.
Je crois que c'est des questions, encore une fois, sur les questions d'argent, je pense.
Parce que Gallimard est une maison bien gérée.
Gallimard est une maison sérieuse, c'est une banque extrêmement pointilleuse. C'est la Lloyds. C'est sans quoi je ne serais pas là.
Ouais. Vous devez la rencontrer à une époque où le Pont Royal était très
beau. Vous parler de la préhistoire.
Oui.
Le Pont Royal, ses fauteuils, ces gens qui étaient là. Oui, Sagan était souvent là. Et dans un coin, Francis Bacon et Michel Liris. Et puis avant, mais ça c'était avant que j'arrive. À part, il y avait Sartre et tout ça. Ça c'est oui, ah ben oui, ça c'est une, ça a été, c'est une époque en effet légendaire. Bon, il y a les photos.
Il y avait Jacques Laurent, Antoine Blondin.
Là, c'était avant que j'arrive. Nimier, tout ça, bien sûr. Nimier surtout. Enfin, Blondin aussi, bien sûr.
Ouais.
L'alcool, les femmes, les voitures, la politique, oui.
Tout ça, il faut rentrer dedans.
Et voilà, je crois que maintenant, on rigole moins.
Mais les livres de la rentrée, vous sentez de temps en temps des influences agrandes, des Albicas, c'est un livre qui utilise
je ne pense
pas des procédés, mais qui utilise quand même une forme de rituel.
Je pense pas, vraiment. Elle est très, très spécifique, très... Les livres de filles, en tout cas, sont en général plus brutaux. Le charme discret de la bourgeoisie, titre de Buñuel, c'est ça que... Le charme discret de la bourgeoisie. C'est un parfum.
Vous aimez bien le respirer.
Mais oui. Ça change. Merci.